France Culture.
Le président américain Donald Trump a affirmé que les Palestiniens n'auraient pas le droit au retour dans le cadre de son plan pour Gaza dans un extrait d'interview dévoilé ce lundi, aujourd'hui même. Une déclaration qui s'inscrit dans une lignée d'annonces qui a stupéfié les opinions publiques et l'immense majorité des chancelleries, alors qu'il affirmait il y a quelques jours vouloir placer l'enclave sous contrôle américain et en faire une destination touristique tout en déportant sa population. Alors, quel autre avenir pour Gaza peut-on imaginer ? Les Palestiniens pourront-ils le dessiner ? Pourront-ils défendre leur droit à l'autodétermination ? Et quelle vision la société israélienne, dans sa complexité, porte-t-elle pour cette bande côtière ? Pour en discuter, deux invités ce soir. Nitzan Perelman-Becker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sociologie politique à l'université Paris-Cité et ingénieur d'études au CNRS. Vous êtes co-autrice du film intitulé « Israël, les ministres du chaos », un film diffusé sur Arte l'an dernier. Et vous êtes également cofondatrice du média Yaen. Avec nous, mais à distance, Sarah Daoud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques associé aux séries de Sciences Po et au CEDEJ du Caire. Votre thèse a porté sur le rôle de médiation des services de renseignement généraux égyptiens dans le dossier palestinien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être présentes ce soir dans Question du Soir. Et une première annonce brûlante d'actualité pour entamer cette discussion. Le Hamas dit reporter, je cite, jusqu'à nouvel ordre le prochain échange de prisonniers avec Israël. Est-ce la fin, Nitzan Perelman-Becker, du processus de cessez-le-feu ou en tout cas est-il profondément remis en cause ?
Alors, il faut comprendre que depuis le cessez-le-feu, la situation est très instable, très fragile. Des deux côtés, on voit chaque fois un côté qui menace avec une autre action. Par exemple, les Israéliens qui menacent de retarder la libération des prisonniers, le Hamas qui menace de retarder la publication des noms d'otages libérés. Et donc, la situation est très fragile, très instable. Il faut aussi comprendre que le Hamas fait cette annonce lundi. Donc ça veut dire qu'il y a encore quelques jours pour peut-être trouver un compromis. Mais effectivement, même sur place, on voit quand même des Palestiniens tués par l'armée israélienne, des Palestiniens qui peuvent pas rentrer chez eux dans le nord de Gaza. Donc tout le temps, la situation est en question, l'accord de cessez-le-feu est en question.
Oui, effectivement, plusieurs morts tués par l'armée israélienne ce week-end, plusieurs Palestiniens en l'occurrence. Sarah Daoud, vous-même, comment est-ce que vous analysez cette déclaration du Hamas cet après-midi ? Au-delà de la fragilité d'ailleurs du cessez-le-feu et de l'accord, est-ce que pour vous, il est remis en cause ce soir ?
Oui, en tout cas, il est extrêmement mis en péril. Ce que les cadres du Hamas, et ça date pas d'aujourd'hui, mais reprochent à Israël, c'est notamment, donc vous l'avez évoqué, effectivement, il y a toujours il y a un certain nombre de victimes encore dans la bande de Gaza, mais ils reprochent également à Israël de ne pas respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu dans le cadre de cette première phrase, et notamment de ne pas respecter ce qu'ils appellent le protocole humanitaire, donc le nombre de tentes, notamment, de vivres, l'aide humanitaire, en tout cas, qui était prévu dans les termes de l'accord, n'entre pas suffisamment dans la bande de Gaza, tout comme le nombre de blessés qui est censé sortir de la bande de Gaza et qui ne s'élève qu'à environ 100 blessés pour le moment qui ont pu sortir. Donc voilà, un nombre, enfin, des tensions en tout cas qui n'ont cessé d'escalader là jusqu'à présent et qui débouchent aujourd'hui effectivement sur ce report, comme l'a annoncé le porte-parole des brigades Al-Qassam, de la libération des otages israéliens.
Il y a par ailleurs une nouvelle demande formulée par le gouvernement israélien. Les dirigeants du Hamas doivent quitter la bande de Gaza désormais pour que l'armée israélienne puisse se retirer totalement du territoire. Là aussi, Nitzan Perelman-Becker, comment est-ce que vous analysez cette nouvelle contrainte posée par Netanyahou ?
Alors, pour comprendre cette annonce, il faut comprendre aussi la fragilité du gouvernement israélien. Netanyahou a besoin de ses alliés, notamment de ses alliés maintenant à Bezalel Smotrich de l'extrême droite, mais aussi de ses alliés de son propre parti, le Likoud, qui demande vraiment une approche beaucoup plus agressive, beaucoup plus décisive avec le Hamas. Il est obligé de dire ce genre d'annonce et on voit à chaque fois des conditions qui vont empêcher la suite, parce qu'il faut rappeler aussi que le cessez-le-feu est en trois phases. Et chaque fois on voit ces annonces qui annonce peut-être la fin du cessez-le-feu après la première phase. Et malheureusement, c'est ce que veulent aussi des membres du Likoud, mais aussi d'autres membres du gouvernement de Netanyahou.
Pour vous aussi, Sarah Daoud, il faut lire cette exigence nouvelle au prisme de la politique interne israélienne ?
Oui, et de l'architecture même de ces négociations de cessez-le-feu, comme l'a rappelé ma consoeur, le fait d'avoir séquencé ces phases, donc ces trois phases, en rejetant à la fin, la toute dernière phase, en fait, la solution politique pour la bande de Gaza, c'est volontairement faire en sorte que on n'arrive pas au terme de ce processus, en fait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il n'a jamais été question pour le gouvernement israélien de poursuivre, de reconstruire la bande de Gaza alors que le Hamas était encore sur le terrain. Or, et c'est un fait, sur le terrain, le Hamas est encore bien ancré dans le territoire et dans la bande de Gaza.
Au-delà, Nitzan Perelman-Becker, on peut quand même se demander si le Hamas a lui-même intérêt à aller au bout de cet accord, au bout de ces processus de cessez-le-feu. Que serait le Hamas aujourd'hui sans avoir plus d'otages entre ses mains ?
Alors, Sarah Daoud pourrait mieux répondre à cette question par rapport à Hamas, mais moi, je peux vous dire, du point de vue de la société israélienne, on a vu des affiches qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, où on disait, par exemple, par rapport au Liban, on n'est pas obligé d'être précis parce qu'il n'y a pas d'otages. Donc, on peut imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans la bande de Gaza s'il n'y a pas du tout d'otages, si jusqu'à aujourd'hui, on voit cette guerre menée de manière très agressive, définie même par des tribunaux internationaux, par des organisations internationales comme génocidaire. Qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a pas d'otages dans la bande de Gaza ? C'est une question, mais ça paraît que ça peut être même plus agressif qu'aujourd'hui.
Sarah Daoud, je vous pose donc la question. Hein. Hamas sans otages aujourd'hui, c'est un Hamas sans rapport de force pratiquement dans la négociation avec Israël ?
Oui, en tout cas sans monnaie d'échange, sans levier de pression sur Israël, et à court terme effectivement la possibilité d'une reprise de la guerre dans la bande de Gaza.
Je voudrais qu'on élargisse la focale et qu'on tente d'entendre justement la réaction des Palestiniens qui réagissent, c'est le cas de le dire, aux dernières déclarations de Donald Trump qui a présenté son propre plan, le propre plan pour l'avenir de la bande de Gaza.
Toutes les maisons de nos enfants ont été démolies et notre maison est à moitié détruite. La pluie entre dans la maison. Le froid arrive, mais nous allons quand même rester. Quoi qu'il arrive, même si c'est sous la tente, même s'ils nous promettent ailleurs des châteaux et des villas, nous ne quitterons pas nos terres.
Je veux mourir sur ma terre et y rester. Je suis né à Gaza, j'ai vécu à Gaza, j'ai étudié à Gaza. Je me suis marié ici et j'ai eu des enfants. Quoi qu'il arrive, je ne quitterai jamais le sol de Gaza.
Je le disais en introduction, Sarah Daoud, le président américain Donald Trump a affirmé que les Palestiniens n'auraient pas le droit au retour dans le cadre de son plan pour Gaza, dans un extrait d'interview dévoilé lundi. Or, quand on entend les Palestiniens qui viennent d'être, dont le témoignage vient d'être diffusé, ce que l'on comprend, c'est que leur territoire reste leur territoire et qu'ils veulent y vivre et y vivre continuellement.
Oui, effectivement, les témoignages sont assez éloquents de ce point de vue-là. À l'annonce, effectivement, de cet exil forcé des Palestiniens sans possibilité de retour annoncé par Donald Trump, il y a les Palestiniens dans la bande de Gaza ont été dans le désarroi le plus total, ça c'est évident. Par ailleurs, si demain effectivement le point de passage de Rafah ouvrait et que les Palestiniens de Gaza pouvaient sortir, un certain nombre sortiraient. Il y a un état de fait, il y a une politique du fait accompli sur le terrain, c'est-à-dire que la bande de Gaza actuellement est invivable. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sortiraient pour qui ont des enfants, espèrent avoir un avenir meilleur et pour l'instant ne perçoivent pas cet avenir-là dans la bande de Gaza. Toujours est-il que la perspective de ne pas retourner sur les terres crée effectivement une anxiété certaine. Et puis, on l'a vu, en fait, à partir du moment où la partie ouest du corridor de Netzarim a été réouverte, en tout cas l'armée israélienne s'en est retirée, il y a plus de 500 000 Palestiniens qui sont retournés du sud vers le nord de la bande de Gaza.
Est-ce que l'on sait justement combien de Palestiniens vivent aujourd'hui, vivent à nouveau à Gazaville, et si la vie, malgré les destructions, malgré le chaos, tend doucement à reprendre ?
Alors, en tout cas, le point positif de cesser le feu, c'est qu'effectivement, les bombes ont cessé de tomber. Néanmoins, et c'est ce que je disais tout à l'heure en évoquant le Hamas, mais dans les faits, le nombre de camions, effectivement, et l'aide humanitaire qui a acheminé dans la bande de Gaza est en deçà, est considérablement en deçà des besoins actuellement, y compris ce qui a été demandé, c'est un nombre important de tentes à acheminer. Donc la vie reprend difficilement. Encore une fois, les gens n'ont pas accès facilement, en tout cas, à des denrées alimentaires. Donc voilà, ça reste effectivement une situation très précaire. Et puis, en ce qui concerne les blessés, on parle de plus de 100 000 blessés dans la bande de Gaza. Ils sortent au compte-gouttes. C'est un euphémisme.
En miroir, je voudrais vous faire entendre plusieurs réactions au sein de la société israélienne, justement, face à ce plan proposé par Donald Trump pour la bande de Gaza.
Il ne faudrait pas se contenter de les expulser, mais il est évident que les gens ne peuvent pas continuer à vivre dans un endroit où la violence est omniprésente. S'ils souhaitent vivre en paix avec Israël, pourquoi pas ? Rendons les choses si attrayantes qu'ils ne pourront pas refuser l'offre.
Franchement, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a derrière. Jusqu'à présent, je n'ai entendu que des déclarations qui n'ont aucun fondement. Déplacer 1,5 million de Palestiniens d'un endroit à un autre d'un simple claquement de doigts me semble quelque chose d'imaginaire, sachant que tous les pays qui sont censés les accueillir ne sont pas du tout intéressés.
Nitzan Perelman-Baker, quel écho trouvent les récentes déclarations de Donald Trump quant à l'avenir de la bande de Gaza ?
Alors, ces déclarations qu'on vient d'entendre, malheureusement,
dans la société israélienne,
oui, ne représentent pas vraiment l'avant consensuel au sein de la société. Il faut savoir que 70% des Israéliens soutiennent le plan de Donald Trump. Et aussi, on voit...
70%,
il y avait plusieurs sondages qui ont été publiés. En moyenne, il s'agit effectivement de 70%. Il faut aussi savoir que dans la scène politique, soit on voit un soutien vraiment vraiment très très fort au plan de Donald Trump. Donc Itamar Ben-Gvir, ancien ministre de la sécurité nationale, annonce vouloir réintégrer le gouvernement parce que il considère qu'il aurait pas pu rêver mieux. Bezalel Smotrich, donc encore une fois ministre de l'extrême droite, dit que c'est la meilleure réponse de 7 octobre, mais aussi au sein de l'opposition. Donc on voit Benny Gantz qui est à la tête du parti centriste, à la tête aussi de l'opposition, dit que si l'évacuation se fait de manière volontaire, pourquoi pas, il considère que c'est humain. Et même Yair Golan, qui est à la tête du parti Les Démocrates, qui est donc le parti de la gauche sioniste qui n'est pas encore au Parlement, il dit tout simplement que le plan n'est pas réalisable. Mais il ne parle pas du tout contre le plan. On voit tous les opposants de Netanyahou, donc tous les opposants du gouvernement qui soutiennent complètement le plan. Même le journaliste qui est peut-être le plus associé avec l'opposition à Netanyahou, qui est Ben Kaspit, publie un article qui a été largement republié, repartagé sur les réseaux sociaux, où il dit que tous les Israéliens, donc il dit même les hallucinants de gauche, doivent soutenir ce plan de Trump.
Je voudrais vous faire réagir, Nitzan Perelman-Baker, encore sur un élément de langage particulier utilisé par Donald Trump, faire de Gaza une riviera, une grande zone touristique dans laquelle les investisseurs immobiliers pourraient envoyer de l'argent. C'est une expression qui a une histoire en Israël. On a beaucoup parlé dans les années 90 de faire de Gaza un Singapour ou un Monaco de la région. Comment vous-même vous l'analysez au vu, justement, au prisme de cette histoire ?
Effectivement, Donald Trump utilise un imaginaire qui est très ancré dans le discours israélien, parce que après les accords d'Oslo, on voit cette idée, même au sein de la gauche sioniste, que Gaza va devenir donc le Singapour du Moyen-Orient. Après 2005, donc l'évacuation des colonies de Gaza, Shimon Peres, donc membre emblématique de la gauche sioniste, le répète encore. Et depuis, on voit la droite israélienne et l'extrême droite israélienne qui instrumentalisent cette idée, donc le Singapour du Moyen-Orient, pour montrer qu'Israël a tout donné à Gaza, entre guillemets, a tout donné aux Gazaouis pour leur permettre de devenir donc une zone prospère et riche, mais que malgré cela, ils ont décidé de créer une réalité violente, donc un nid de terroristes, comme disent les Israéliens. On ignore complètement, bien sûr, qu'Israël impose un blocus total sur la bande de Gaza et empêche effectivement tout développement, ou même j'irai plus loin. Le fait d'avoir évacué les colonies, et ça plusieurs chercheurs le disent, c'est justement empêcher la fondation d'un État palestinien, empêcher une sorte de continuité entre la Cisjordanie et Gaza. Et donc ce mythe qui est instrumentalisé de manière très cynique aussi par Donald Trump, qui est un homme d'affaires, est très problématique et bien sûr elle est très soutenue aussi par les Israéliens.
Est-ce que vous faites la même analyse, Sarah Daoud? C'est un ensemble de propositions, de plans que l'on entend en ce moment pour planter peut-être l'un des derniers clous de la solution à deux États.
Effectivement, ces propos-là, et en tout cas ce plan immobilier de Trump pour Gaza, il s'inscrit aussi dans le sillage de propositions qu'il a eues dans le passé lors de son premier mandat. Et je pense notamment à son plan de paix pour le conflit israélo-palestinien, qu'il a intitulé « Peace to Prosperity », et qui comprenait donc un volet économique et un volet politique, et dans lequel effectivement il insistait sur le fait qu'il fallait développer. Alors à cette époque-là, il parlait pas d'un déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, mais il y avait quand même cette idée-là. Et d'ailleurs à cette époque-là, les relations étaient très tendues avec la Jordanie et avec le régime égyptien, ce qui est quand même assez rare. Et donc, effectivement, il y avait déjà cette idée-là derrière de, en tout cas, déplacer, créer une confédération, par exemple, entre la Jordanie et les territoires palestiniens occupés, et puis développer une partie du Sinaï pour créer une zone industrielle, générer un marché de l'emploi à destination de la population des Palestiniens de Gaza. Donc, ça s'inscrit effectivement dans des projets, en tout cas, de plus long terme, qui ont été présentés à l'époque et qui n'ont pas, parce qu'ils étaient moins extrêmes que les propos actuels, mais qui n'ont pas été reçus avec la même hostilité de la part des États de la région qu'actuellement, mais qui proposaient une solution comme aujourd'hui, une solution au mépris des droits des Palestiniens.
C'est ce que j'allais vous demander, Sarah Daoud. On voit bien aujourd'hui la résistance évidente de pays comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite également. On y reviendra. Comment à l'époque avait réagi l'Égypte, par exemple, sur cette proposition que vous venez de mentionner, construire une vaste zone industrielle dans le Sinaï?
Alors le régime égyptien avait démenti à l'époque. Toujours est-il que pour ce qui est de l'Égypte, vous disiez que la réponse, en tout cas, il y avait un certain consensus arabe à l'heure actuelle pour refuser, pour condamner les propos de Trump. C'est vrai. Mais c'est vrai des degrés différents en fonction des capitales arabes. C'est-à-dire que l'Égypte aussi a finalement s'est exprimé contre cette proposition de projet immobilier, mais elle l'a fait un peu tard. Et puis par ailleurs, le régime a organisé une manifestation assez importante, en tout cas assez voyante au point de passage de Rafah le lendemain des propos de Trump, et en même temps interdisait une manifestation devant l'ambassade américaine au Caire de la part de groupes civils, et par ailleurs a réprimé les syndicats égyptiens qui se sont aussi mobilisés à ce moment-là. Donc il y a une ambivalence quand même dans la position de l'Égypte qui s'explique aussi par le fait que effectivement l'administration américaine a des leviers, notamment un levier financier important en ce qui concerne l'Égypte. Mais en revanche, la Jordanie s'est tout de suite prononcée contre, évidemment. Le président Abbas s'est tout de suite rendu à Amman pour voir le roi Abdallah et en parallèle a envoyé son premier ministre en Égypte. Voilà. Et si on prend d'autres États, je pense notamment à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est aussi contre ce projet immobilier dans la bande de Gaza.
On reviendra sur les avis, sur les réactions aussi de ces pays dans la région. Un mot tout de même avant cela, Nitzan Perelman-Becker, sur la situation de la Cisjordanie. Elle est évoquée régulièrement là aussi, alors qu'on en parle moins par le Premier ministre israélien. Que dit-il au sujet de ce territoire ?
Alors c'est une question très importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui disent que le plan de Trump annoncé comme ça, c'est aussi pour détourner le regard envers Gaza et faire oublier la Cisjordanie où la situation est catastrophique depuis le cessez-le-feu. Bah, davantage que ce l'était avant, non seulement dans la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, mais partout, la violence des colons est plus importante que jamais. D'ailleurs, il faut rappeler que Donald Trump a annulé les sanctions que l'administration Biden a annoncées contre des colons radicaux. Il y a aussi ce qu'on voit, des colons qui s'habillent avec des uniformes de militaires et portent une arme et se baladent partout. Et il faut comprendre que ce gouvernement a un plan très précis pour la Cisjordanie. Pourquoi ? C'est parce que Bezalel Smotrich, qui est un colon qui vit dans le nord de la Cisjordanie, est responsable aujourd'hui des colonies en Cisjordanie. Et lui, il a son plan décisif. Le plan décisif publié en 2017 où il dit que la solution, entre guillemets, du conflit israélo-arabe, lui, dit pas palestinien, est l'annexion de la Cisjordanie. Et après l'annexion, il va proposer aux Palestiniens sur place trois options. Soit renoncer à leurs droits politiques et avoir un statut de résident comme les Palestiniens de Jérusalem-Est. Soit partir, donc encourager le départ comme on entend maintenant. Soit combattre. Et donc Bezalel Smotrich, depuis qu'il est entré en fonction, tout ce qu'il fait, c'est justement pour avancer son plan. Il a déjà légalisé, entre guillemets, 68 avant-postes en Cisjordanie. Il accélère de manière très importante la colonisation dans la zone. Et justement, on se demande, est-ce que le fait que le cessez-le-feu, qui est le même qui était en mai, soit accepté maintenant, est-ce que le plan de Trump n'est pas aussi peut-être une annonce que quelque chose va se passer en Cisjordanie, notamment l'annexion de certaines colonies au territoire officiel de l'État d'Israël.
Sarah Daoud, cette question de l'avenir de ce territoire, la Cisjordanie, comment est-il envisagé cette fois-ci par l'administration américaine ? Est-ce que c'est un enjeu évoqué par Donald Trump lui-même ?
Oui, il l'a évoqué très récemment d'ailleurs. Il a dit qu'il allait étudier les propositions qui lui ont été faites par l'administration israélienne des plans d'annexion de la Cisjordanie. On pourrait très bien envisager qu'il décide de reconnaître la légitimité de la présence israélienne dans les territoires occupés, comme il a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël lors de son premier mandat. Donc c'est tout à fait plausible. Et effectivement, la situation en Cisjordanie, et c'est aussi ce qui met en péril en fait ces négociations de cesser le feu, parce qu'en fait, c'est pas une solution pour Gaza qui mettra fin au conflit, c'est une solution politique pour les Palestiniens d'une façon générale, Cisjordanie compris. Or, la situation en Cisjordanie, pas seulement depuis le cessez-le-feu, mais effectivement depuis le 7 octobre, est aussi catastrophique. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires faisait état depuis de plus de 800 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis le 7 octobre. Et par ailleurs, effectivement, il y a un certain nombre de villes qui font l'objet d'offensives fortes de la part de l'armée israélienne. Le camp de réfugiés de Jenin, effectivement, et d'autres villes, effectivement, Tul Karem, par exemple, Toubas, qui, depuis l'été, sont très régulièrement attaqués par l'armée israélienne.
Nitzan Perelman-Baker, comment comprendre dans le fond la force de l'alliance entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump ? On va parler bien sûr du sionisme chrétien, vous allez plutôt nous en parler, mais d'un point de vue plus personnel, est-ce que ces deux-là s'entendent à tel point que cette alliance peut durer dans le temps ?
Alors, effectivement, ça c'est un élément très important. Donc, l'entourage de Trump est sioniste et pro-israélienne. Donc, il y a à la fois des chrétiens sionistes dans son entourage. Il y a son beau-fils aussi qui est très lié à Israël. Il est très lié aussi au lobby juif sioniste aux États-Unis. Mais comme vous dites, le lien entre Trump et Netanyahou va plus loin parce que c'est un vrai lien personnel. On peut parler peut-être d'une amitié politique entre 2016 et 2020, le premier mandat de Trump, où Netanyahou voit aussi que cette amitié se traduit par une légitimité sur le plan national. Et là, on voit par exemple, il y a 2 mois, je pense, la femme de Netanyahou avec son fils qui dîne avec Donald Trump sans même que Netanyahou soit là. Et surtout, maintenant, les relations, on dit qu'il... Il y a des petits problèmes dans les relations, notamment après que Netanyahu, en 2020, appelle Biden pour, lui pour le féliciter. On sait aussi que Donald Trump demande certaines choses que Netanyahu refuse. Mais dans tous les cas, Netanyahu sait très bien qu'il a besoin de Trump, encore une fois, pour rester aussi au pouvoir en Israël. Parce que si Joe Biden a été décrit par les Israéliens pendant longtemps comme le papy du pays depuis le 7 octobre, l'arrivée de Trump et surtout les dernières annonces montrent que les Israéliens vraiment mettent toute leur confiance sur Donald Trump et Netanyahu a tout intérêt de faire durer cette relation qui avant pouvait être décrite comme amitié, mais dans tous les cas, il doit à tout prix entretenir cette relation.
Est-ce que vous faites la même analyse, Sarah Daoud ? Est-ce que vous expliquez par les mêmes motifs, si je puis dire, la force de cette alliance ?
Je me garderais bien de rentrer dans les détails de la politique intérieure israélienne. Je pense que ma consœur est bien plus à même que moi d'en parler. Mais effectivement, je pense que la réélection de Trump a été accueillie par l'administration israélienne avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis voilà, la dernière rencontre à Washington a bien montré que effectivement l'alliance était forte et perdurait. Et puis le feu vert, en fait, les propos de Trump là récents sur l'avenir de la bande de Gaza, la question n'est pas de savoir s'ils sont réalistes ou réalisables, c'est plutôt de voir qu'en fait ils contribuent à envenimer un processus de cessez-le-feu qui était effectivement, comme on l'a rappelé plusieurs fois, très très fragile.
Je voudrais qu'on revienne avec vous encore, Sarah Daoud, sur la position de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, un partenaire historique des États-Unis dans la région. Or, l'Arabie Saoudite a accueilli extrêmement froidement le plan de Donald Trump. Et d'ailleurs, le projet de deux États fait toujours partie des projets, cette fois-ci, de l'Arabie Saoudite. Comment comprendre la position saoudienne aujourd'hui ?
Eh bien, cette position saoudienne, elle est la même que celle, en fait, elle s'inscrit aussi dans le sillage de l'initiative arabe pour la paix de 2002, qui était portée également par l'Arabie Saoudite, la Ligue arabe, mais en particulier par l'Arabie Saoudite, et qui demande la création d'un État palestinien en échange de la normalisation des relations avec Israël. Et voilà, ce qui est défendu côté saoudien, c'est effectivement cette solution à deux États. D'ailleurs, c'est ce qui va être au cœur des discussions du sommet que vont co-présider la France et l'Arabie Saoudite sur la création d'un État palestinien en juin prochain. Et cette position-là de l'Arabie Saoudite, mais plus généralement des capitales arabes, même si je nuançais un peu la position du régime égyptien tout à l'heure, mais elle s'explique par le fait qu'en fait, ces dirigeants sont pris en étau aussi entre des pressions certes fortes de la part de l'administration américaine et du gouvernement israélien, mais aussi leur société civile qui, elle, depuis le 7 octobre, se mobilise et s'exprime en faveur de la cause palestinienne. Et effectivement, dans le cas de la société civile saoudienne, ils sont fortement solidaires, en tout cas avec le peuple palestinien, idem en Égypte. Et c'est ce qui fait craindre aussi un peu le régime égyptien si il concède aux Américains.
On peut aussi se demander, Sarah Daoud, si les récentes déclarations, propositions de Donald Trump, qui entend placer l'enclave gazaoui sous contrôle américain, ne sont pas contradictoires avec l'idée de relancer les accords d'Abraham qu'il avait promus, défendus durant son premier mandat. Est-ce que vous voyez vous-même une contradiction entre ces deux ambitions diplomatiques ?
En tout cas, effectivement, les négociations, parce que là, ce qui était en cours dans les processus de normalisation, c'était effectivement l'Arabie Saoudite. Et là, le processus est gelé depuis le 7 octobre, ça c'est évident. Pour autant, depuis le 7 octobre, et puis depuis les propos de Trump, ces accords de normalisation, donc avec un certain nombre d'États, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Maroc, le Soudan, n'ont pas été remis en cause. Donc, je pense que la normalisation, enfin les accords de normalisation qui ont été passés sont pas en cause pour le moment. Mais par contre, effectivement, ces propos-là, ils sont aussi dangereux pour la sécurité de l'État d'Israël, je pense, dans la région, puisque comme on l'a dit, les États arabes, il y a un consensus, en tout cas, des capitales arabes qui s'expriment contre ces projets d'avenir pour la bande de Gaza.
Je voudrais qu'on évoque par ailleurs, Nitzan Perelman-Baker, la décision de Donald Trump qui a engagé le 6 février dernier des représailles contre les membres de la Cour pénale internationale. Le président américain a signé un décret imposant des sanctions financières, notamment aux personnes et aux membres de leurs familles qui participent aux enquêtes de l'ACPI. Là aussi, comment comprendre cette décision ? C'est justement, simplement pour protéger le Premier ministre israélien ?
Alors, ça doit être plus large que ça. C'est une attaque directe sur le droit international de manière très, très brute. Et je comprends ça aussi, bien sûr, du point de vue israélien, mais je pense que c'est aussi une histoire de rapport de force. Le droit international a été beaucoup utilisé dernièrement donc par les pays du sud global qui essayent quand même d'imposer leur point de vue et leur position. Donc Israël, maintenant, c'est le cas qui est joué, si je peux dire comme ça. Mais ça montre vraiment le rapport de force entre le Sud global qui demande d'appliquer justement le droit international, donc on voit l'Afrique du Sud, mais beaucoup aussi de pays d'Amérique latine, et on voit les pays occidentaux, y compris la France, qui annonce ouvertement que si Benjamin Netanyahu va entrer dans le territoire français, il ne va pas être arrêté. Donc vraiment, cette annonce de Donald Trump, qui est une attaque directe sur la CPI après l'annonce sur les mandats d'arrêt et après l'annonce de plusieurs pays occidentaux qui ne vont pas respecter ces mandats d'arrêt, vraiment rejoignent dans une suite très logique et très problématique pour justement la place du droit international et sa légitimité.
Je voudrais qu'on parle, Sarah Daoud, des Palestiniens pour finir cette discussion. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une voie de passage pour leur permettre de décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes, les moyens de leur avenir et ainsi de faire valoir leur droit à l'autodétermination?
Alors le problème, c'est que effectivement, là, les solutions qui sont tour à tour mises sur la table, elles ont été élaborées sans l'avis des Palestiniens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les plans qui ont été proposés pour l'avenir de la bande de Gaza se sont faits effectivement au mépris des Palestiniens. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la solution à ce conflit, c'est une solution politique qui concerne la Palestine. Et qui devrait aboutir, c'est ça la solution, à la création d'un État palestinien. Or, effectivement, refuser, qu'Israël refuse par exemple le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza pour administrer la bande de Gaza, c'est aussi continuer, éviter à tout prix ce qu'on évoquait en début d'émission, à savoir une réunification politique des territoires et une réunification territoriale, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est continuer, pas contribuer à cette institutionnalisation de la division. Le problème aussi, c'est vient des Palestiniens, en tout cas des factions politiques palestiniennes elles-mêmes, qui ne s'entendent pas, malgré effectivement les efforts cet été. Je pense notamment à la déclaration qui a été faite commune des factions à Pékin. Le président Abbas a annoncé là récemment qu'il allait mettre en place un comité administratif pour gouverner Gaza et que ça se ferait sans le Hamas. Donc,
je vous en prie.
Sans résoudre les conflits internes entre Palestiniens, effectivement, ça complique aussi, ça complique aussi la question de la solution politique.
Nitzan Perelman-Baker, est-ce que vous-même percevez, est-ce que vous identifiez dans la société israélienne, parmi les responsables politiques israéliens, des solutions qui intégreraient justement les Palestiniens à ces solutions possibles pour l'avenir de la bande de Gaza ?
Alors aujourd'hui, je ne vois aucune opposition en Israël, aucune opposition au moins audible qui propose une autre solution qu'un État juif de la mer au Jourdain.
Mais on en revient donc à ce que vous disiez au début d'émission, c'est-à-dire un soutien large, puissant quant au plan de Donald Trump.
Exactement. Après, on voit la gauche sioniste qui critique Netanyahou par rapport à la libération des otages, par rapport au plan stratégique à Gaza, mais il n'y a pas de vraie alternative. Surtout le centre politique, qui est peut-être celui qui peut remplacer Netanyahou au pouvoir, a soutenu une fois après l'autre le gouvernement israélien et l'armée israélienne dans ses actions à Gaza depuis le 7 octobre, avec une pétition très importante qui a été signée par 106 membres du Parlement sur 120 qui dénonce la décision de la CPI, avec un vote de 68 membres du Parlement, y compris de l'opposition, contre la reconnaissance future d'un État palestinien, avec un vote très important pour interdire l'UNRWA. Donc effectivement, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de vraie alternative politique. On voit quand même une gauche radicale qui est très minoritaire, qui manifeste, qui parle pour la paix, qui quand même essaye d'aider sur place les Palestiniens. Mais en ce qui concerne la scène politique, je ne vois vraiment aucune alternative, surtout que les Palestiniens citoyens d'Israël, et il faut le dire, et qu'ils sont très oubliés, sont massivement opprimés depuis le 7 octobre, y compris les députés palestiniens au Parlement.
Sarah Daoud, est-ce que vous faites vous-même le constat d'une extrême solitude des Palestiniens aujourd'hui aussi, quand on voit, le peu de soutien qu'ils reçoivent, notamment de la communauté internationale, de la communauté régionale également, même si l'Égypte et la Jordanie ont décrié la décision et le plan de Donald Trump, tout de même, cela ne signifie pas un soutien envers les Palestiniens?
Oui, effectivement, depuis le 7 octobre, les Palestiniens ont été peu... Alors encore une fois, il faut bien distinguer les dirigeants de leur population. Et là, pour ce qui est des sociétés civiles dans les mondes arabes et musulmans, il y a eu des fortes mobilisations pour les Palestiniens. Après, si on se place sur le plan politique, effectivement, il n'y a pas beaucoup de... d'alliés. Et même le droit international... que les Palestiniens mobilisent de façon... Il y a une vraie diplomatie multilatérale qui a été déployée, développée par l'autorité palestinienne, en particulier depuis 2010-2011. On voit bien que face à l'offensive ou à la défiance claire de puissances telles que les États-Unis et Israël contre les instances internationales, il n'y a plus... Vraiment, on a du mal à voir quel recours il y a possible pour les dirigeants palestiniens aujourd'hui.
Un mot, Nitzan Perelman-Becker, de ces otages israéliens qui ont été libérés ce samedi, en échange de 183 prisonniers palestiniens. Le Hamas a libéré, je le disais, trois otages israéliens qui ont vécu dans des conditions inhumaines sous la coupe du Hamas. Comment la société israélienne a-t-elle réagi face à cette triple libération ?
Alors, c'était un vrai choc au sein de la société, parce que les otages qui ont été libérés jusqu'à maintenant... On voyait qu'ils étaient un peu pâles ou qu'ils avaient perdu un peu de poids. Mais là, on voit vraiment des otages qui ont beaucoup souffert pendant 15 mois. Et ce qu'on voit dans les médias israéliens et ce qui est répété, c'est que le gouvernement savait que les otages étaient dans un état déplorable. Netanyahou a même dit aux États-Unis ils sont en train de souffrir, mais ils sont pas morts. Pour justifier le fait qu'il n'avance pas un plan pour la libération des otages. Et là, on voit des manifestations et un appel de plus en plus fort contre le gouvernement pour imposer la suite du cessez-le-feu et pour libérer tous les otages, parce qu'on considère que plus on avance dans le temps, plus les otages qui seront libérés seront comme ceux qui ont été libérés samedi. Ou ça serait pire. Donc effectivement, il y a un appel très très fort au sein de la société civile, au gouvernement, de donner suite à ce cessez-le-feu et de libérer tous les otages.
Est-ce que ça tend encore les relations entre le gouvernement israélien, à travers la figure notamment de Benjamin Netanyahou, et une part justement de la société civile israélienne ?
Effectivement, donc Benjamin Netanyahou est critiqué depuis son retour au pouvoir, mais notamment depuis le début de ses procès pour corruption. Donc, il y avait énormément de manifestations contre lui depuis 2020, puis depuis janvier 2023 avec la réforme judiciaire. Donc, il y avait énormément de manifestations dans les rues israéliennes. Et là, on voit donc l'opposition très audible en ce qui concerne la question des otages, et les images de samedi renforcent renforce cette opposition et renforce l'appel à continuer avec le cessez-le-feu.
Merci à vous deux de cette discussion, Nitzan Perelman-Baker. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie politique à l'université Paris Cité, ingénieur d'études au CNRS. Sarah Daoud, vous êtes docteur en sciences politiques associée aux séries de Sciences Po et au CEDEJ du Caire. Et un merci chaleureux à l'équipe d'Issy Touraine qui a assuré la liaison technique avec vous. Bienvenue dans Merci d'être venu à Question du Soir.